la recherche scientifique. Inutile de vous dire que quand on m'a demandé d'assurer cet échange, ça a été pour moi un challenge. Je suis, comme le rappelait Céline, de formation médicale, je suis médecin, chercheur, enseignant, praticien et chercheur, mais je ne prétends pas, et de loin, avoir une maîtrise sur la recherche scientifique, qui est un monde sans limite. Alors, tout d'abord, d'où je viens, voilà, le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, qui est dans le 13e arrondissement, un établissement hospitalier très ancien, qui a 4 siècles, et dans lequel beaucoup de choses se sont passées au niveau de l'histoire de la médecine, en particulier dans le domaine de la neurologie, puis plus tard dans le domaine de la cardiologie. Alors j'ai voulu savoir où je venais, donc j'ai essayé de regarder chez vous, donc j'ai trouvé des belles photos, et de fait nous sommes allés nous promener tout à l'heure sur la plage Malo, qui me confirme que vous êtes effectivement dans une belle ville, et encore une fois, ensoleillée, quoi qu'on puisse en dire. Voilà, j'ai aussi découvert que vous commenciez un événement historique qui est votre carnaval et qui, moi, quand j'en ai entendu parler aujourd'hui, m'a rappelé pas mal de similitudes avec le carnaval de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Alors voilà ce que je vous propose. Vous avez une feuille de papier, vous la coupez en 4. Vous garderez l'autre moitié pour vous. Alors sur chaque quart, alors sur le premier quart, vous allez écrire au recto. Alors là, je vous demande de vous concentrer tout de suite parce que c'est un exercice immédiat. Lorsque je prononce le mot recherche scientifique, quelle est l'image qui vous vient à l'esprit? Quelle est la première idée qui vous vient spontanément? J'allais dire sans réfléchir. Et vous inscrivez cette idée qui vous vient sur le recto du premier quart ou de la première moitié, peu importe la taille de la feuille, il nous faudra 2 feuilles. Ça peut être un mot ou un groupe de mots, hein. Une idée, une image, une évocation. Que vous évoque le mot recherche scientifique? Alors, lorsque c'est fait, vous retournez ce même morceau de papier et au dos, vous inscrivez ce qui vous vient à l'esprit en termes de discipline scientifique. Au niveau scientifique, quelle est la première discipline qui vous vient? Quelle est la première science qui vous vient à l'esprit? La biologie marine, l'archéologie, la paléontologie, l'astronomie, la géologie, les nanotechnologies. La phlébologie, la primatologie, la phlébologie, c'est la science des veines, pathologie veineuse. Voilà, cette première feuille est complétée. Alors on va récupérer cette première feuille, s'il vous plaît. Ma contribution, hein. Et celle-là, vous la gardez, vous. Alors, comme vous le voyez, sur l'autre morceau de feuille, vous allez inscrire chacun une question, parce que vous êtes assez nombreux, et que j'aurais bien voulu que vous en posiez plusieurs, chacun, mais ce sera un peu difficile à gérer. Vous allez poser une question, si possible, sur le thème de la recherche scientifique. Alors, comment on va s'y prendre? La première chose, grâce au premier questionnaire, on va avoir une idée de ce qu'est votre attente. Moi, ce que je souhaitais savoir, c'est qu'est-ce que vous souhaitiez obtenir de cet après-midi. Alors, j'ai essayé de me mettre quelques mois ou quelques années en arrière et me mettre à votre place à laquelle j'étais il y a donc quelques années et me dire qu'est-ce que j'aurais attendu d'une séance d'une heure et demie lorsque j'étais en première, ça sert pour certains d'entre vous, première S. Levez la main les premières S. Un peu regroupé là, trois là-bas. Ouais. Terminale S. Levez la main. Très peu. Et en prépa, majorité. Grande majorité. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre ou recevoir à votre place? Donc je me suis dit, peut-être est-ce que vous souhaitez avoir des éléments pour faciliter votre orientation professionnelle. On m'a dit que, en tout cas pour les terminales, je crois que la date limite pour formuler vos vœux pour l'an prochain était le 20 mars. Donc vous êtes dans les dernières semaines avant d'exprimer ces vœux. Peut-être que cette conférence peut vous éclairer, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, pour vous amener à faire un choix par rapport à un métier qui serait en rapport avec la recherche scientifique. Est-ce que vous souhaitez, je me suis dit peut-être, avoir des informations sur le contenu des études qui mènent à la recherche, le curriculum, le cursus, comment ça se passe d'un point de vue pratique, quel est le niveau, quelle est la difficulté. En termes d'emploi, peut-être, c'est pas négligeable, y a-t-il du travail lorsqu'on fait la recherche ou est-ce directement le pôle emploi? Quels sont les... un peu dans le même esprit, les profils de carrière, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un engagement vers la recherche, aujourd'hui, au XXIe siècle, en France en tout cas, ou en Europe, si éventuellement vous allez pratiquer plus loin. Quelle est peut-être la vie quotidienne du chercheur? Peut-être que vous faites une idée différente de ce qu'est la réalité du chercheur aujourd'hui. Quelle est votre part de rêve et quel est ce rapport entre le rêve ou le fantasme et la réalité, et sans doute d'autres thèmes. Voilà. Donc, en dépouillant la première fiche, on va avoir peut-être une idée de cette attente. Alors moi, ce que je peux vous proposer, très modestement, encore une fois, avec ma fonction de médecin, enseignant et chercheur, c'est vous parler de mon parcours, qui n'est pas du tout représentatif de tous les parcours, évidemment. Ce sera mon parcours, mais je peux éventuellement vous en parler. Vous parler de mon expérience professionnelle dans différents domaines, de ce que j'ai vécu et comment j'ai vécu ce parcours jusqu'à maintenant. Et puis, vous donner aussi, partager avec vous mes doutes et mes convictions par rapport à ces métiers de la recherche. Voilà, ça, je peux vous l'offrir. Maintenant, votre attente, on va en savoir un peu plus en quelques instants. Oui, si vous voulez. Très bien, même. Alors, j'aime bien me fixer des objectifs quand je prends la parole devant un public, donc c'est le cas. Premier objectif, et nous validerons ces objectifs à la fin de la session, et on verra ensemble si on a pu ou ne pas les atteindre du tout, ou les atteindre partiellement, ou éventuellement complètement. Alors, premier objectif, c'est que vous puissiez entrevoir ce qu'est l'étendue des sciences, l'immense variété de ce qu'il y a derrière ce mot « science ». Et là, on aura déjà une idée, grâce à cette feuille dans laquelle vous exprimez la première discipline qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle de recherche scientifique. Deuxième objectif, que vous ayez un aperçu, merci beaucoup, un aperçu de la vie des chercheurs. L'idée, c'est que vous ayez une idée en termes de prévention, mais dans le sens positif des choses, que vous soyez prévenu de ce qu'est la vie du chercheur. Comme je le disais tout à l'heure, que votre part de rêve soit pas trop décalée par rapport à ce qu'est la réalité de la vie du chercheur. Donner envie. Alors, je ne suis pas du tout venu là pour faire du prosélytisme pour la science, rassurez-vous. Il n'y a pas de personnes derrière qui vont faire du recrutement pour vous amener à la recherche. Simplement, l'idée, c'est que ne pas laisser passer une éventuelle vocation, si tant est qu'il y en ait eu, ne serait-ce qu'une aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Si, par hasard, l'une ou l'un d'entre vous n'avait pas vu certains aspects de ce qu'est la recherche scientifique, et aujourd'hui puisse se dire, bah, finalement, je ne connaissais pas cet aspect, il m'intéresse, j'ai peut-être envie de m'y engager pour le futur, ça aurait été une heure et demie éventuellement utile, au moins pour cette personne-là. Pour la personne et pour la science au demeurant. Quatrième objectif, vous convaincre de l'omniprésence de la science dans tous les domaines. Et enfin, dernier objectif, ça va être de parler de science pendant une heure et demie et malgré tout de passer un bon moment ensemble. Alors qu'est-ce que la science, et moi je vais me baser sur les disciplines que vous avez énoncées spontanément. La physique, la biologie, les mathématiques, pour quelqu'un c'est l'oscilloscope, la physique nucléaire, vous avez des centrales nucléaires dans la région ? Les nanotechnologies, l'astrophysique, science de la vie et de la terre, chimie, médecine, physiologie, microbiologie, astronomie, paléontologie, astrologie, c'est de la spéléologie, géologie, biotechnologie et cardiologie. Voilà ce qui ressort de ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de recherche scientifique. Alors, le thème, c'est la recherche scientifique. Je vais retourner dans tous les sens. Et quoi qu'il arrive, je n'ai pas pu faire autrement que de faire en sorte que le centre de la discussion tourne autour des sciences, de la science ou des sciences. C'est-à-dire que la recherche est une voie qui vient alimenter la science. Alors peut-être que les professeurs me diraient « c'est un hors-sujet, votre copie vaut 2 sur 20 », car on ne va peut-être pas parler tellement aujourd'hui de recherche scientifique, mais finalement plus de science dans cet esprit-là. Et quand je vous disais tout à l'heure que la science est omniprésente, c'est que si on la place effectivement au centre, on voit bien qu'elle nourrit bien évidemment les technologies. Il y a ici un professeur de technologie, si je ne me trompe. Voilà, merci. La science nourrit la philosophie. La philosophie, à travers les âges, se transforme en tenant compte de l'évolution des sciences. Elle nourrit évidemment la sociologie. Elle nourrit la politique au sens noble du terme, la gestion de l'humain et de la société. Elle nourrit l'ensemble de ce qui concerne l'humain. Alors, vous me direz, si on avait eu ici, si vous aviez invité un philosophe pour répondre à la question « qu'est-ce que la philosophie ?», il vous aurait mis la philosophie au milieu et vous aurez démontré que la philosophie est au centre de tout le reste. Et de la même façon pour n'importe quelle autre discipline. Ce que je veux dire, c'est que ce genre de schémas sont toujours évidemment contestables, mais c'est pour nous aujourd'hui une façon d'appréhender cette thématique de la recherche scientifique. Alors on va lire ensemble cette définition qui est donnée par le professeur Pierre Papon, qui est un professeur à l'école de physique et de chimie de Paris et qui est le président d'honneur de l'Observatoire des sciences et des techniques. Il dit que l'homme a toujours voulu comprendre le monde et la société dans lesquelles il vit, et ce depuis plusieurs siècles, et c'est la recherche scientifique qui tente de répondre à ce besoin. Le besoin de comprendre le monde dans lequel nous vivons. La recherche a d'abord une dimension culturelle. On revient sur ce carrefour. La recherche qui amène à la science et qui va nous amener à une autre voie qui peut être la culture, elle a un contexte culturel. Connaître et comprendre la nature, mais comme elle rend possible, jusque dans ses aspects les plus fondamentaux, ou en tout cas elle tente de rendre possible la maîtrise de cette nature, elle est aussi de fait un enjeu de puissance autant que de pouvoir. Donc, ce qu'il veut dire là, c'est que à travers la recherche, l'homme tente de maîtriser la nature, avec parfois bien des dérapages, et que du coup, la recherche devient un enjeu de pouvoir. D'où le lien entre science et politique. La science et la technologie ont provoqué des mutations profondes dans nos sociétés, d'abord en changeant notre vision du monde. Croire que la Terre est un disque plat et que le Soleil tourne autour de la Terre n'est pas la même chose que de comprendre que la Terre est une sphère et que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, par exemple. C'est une révolution, donc, de notre vision du monde, mais également de nos modes de vie. Vos arrière-grands-parents ne connaissaient pas l'électricité. Vous, aujourd'hui, vous connaissez le téléphone portable avec Internet connecté et la 3G. Le saut est considérable, donc les modes de vie se sont radicalement transformés et elles sont devenues des composantes essentielles de l'activité humaine dans les sociétés modernes. Et si on se base sur une histoire plus récente, il précise que l'émergence des politiques de la recherche et de la technologie depuis la Seconde Guerre mondiale traduit la prise de conscience de cette réalité. Voilà, je trouve une définition assez globale de ce que peut être la recherche scientifique, qui m'a paru une synthèse introductive intéressante. Alors, dès lors qu'on parle de recherche, vous voyez tout de suite qu'on aborde les problèmes de sociologie, de politique, de pouvoir, de culture, d'où cette responsabilité sociale des scientifiques. La responsabilité de la science et de ses acteurs, c'est-à-dire les chercheurs, au regard de la société dans laquelle ils vivent, et la société qui engage ses chercheurs et qui finance ses chercheurs, ne serait pas un problème crucial si la science n'avait qu'un impact modéré sur la vie des hommes et sur la planète. Or, on vient de le voir, c'est tout le contraire. La science a un impact majeur sur la vie des hommes et sur la planète sur laquelle nous vivons et dont nous dépendons. Et donc, effectivement, ce n'est plus le cas depuis au moins un demi-siècle. Et ce ne serait pas non plus un problème crucial si elle n'était pas une activité sacralisée, échappant au regard critique de la société, ce qui est actuellement le cas, en tout cas depuis au moins le siècle des Lumières. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, peut-être moins depuis quelques décennies, mais jusqu'à il y a peu de temps, la science avait un caractère sacré, un caractère intouchable. Donc les scientifiques pouvaient parler, s'exprimer, deviser, sans que la société ne puisse éventuellement la critiquer. Elle échappait à cette critique. Il est important que, aujourd'hui, la science fasse partie du monde qui puisse être critiqué, qui puisse être validé ou refusé ou réfuté par la société. Bien sûr, cela ne doit pas donner à croire que la science est par essence mauvaise ou qu'elle n'apporte aucun bienfait à l'humanité. Il ne faut pas regarder que le... évidemment que le côté négatif. Ça, c'était une réflexion du professeur Jacques Testard, biologiste, directeur de recherche à l'Institut National de la Recherche Médicale. Alors, comme je viens d'université Pierre et Marie Curie, je ne pouvais pas m'empêcher de vous mettre ce dessin. Ça, c'est une soirée chez Monsieur Pierre et Marie Curie, début du siècle. Donc il y a Pierre Curie qui dit à sa femme, Marie, éteins cette lumière. Et elle dit, mais Pierre, j'ai éteint. En fait, c'est elle qui irradie, hein, puisqu'elle a travaillé sur, ils ont travaillé sur ces produits irradiants. Voilà. Là, on arrive un petit peu à travers ce dessin à une réflexion qui est celui de la responsabilité qu'on vient d'évoquer du chercheur. Il n'est pas anodin de travailler sur la radioactivité. Si on prend en compte, si on prend, on garde en conscience les éventuelles conséquences. On peut imaginer les quatre consciences qu'ont eu des physiciens comme Einstein de travailler sur l'atome, avec les conséquences que vous lui connaissez. Et cela nous amènera à discuter, j'espère, assez longuement, si on peut, de l'aspect éthique de la science, et en particulier dans le domaine scientifique dont je suis issu, qui est la science médicale. L'éthique médicale est quelque chose d'essentiel, mais en l'occurrence ici, on est sur un plan éthique au niveau d'une science qui est la physique. Alors, une réflexion de Federico Maior et de Evry Chassman, qui sont l'un directeur général de l'UNESCO et l'autre membre de l'Académie des sciences, directeur de recherche. On ne peut parler des rapports entre la science et la société, ni du statut des sciences, sans définir d'abord ce que l'on entend par la première, c'est-à-dire par la science. Si l'on admet que les phénomènes naturels obéissent à des lois, et que ces lois sont connaissables, on peut dire que la science est l'ensemble des connaissances des lois du processus naturel. À un moment donné de l'histoire, lorsqu'on fait le point dans une discipline donnée sur les connaissances, la théorie qui gère l'ensemble de ces connaissances de façon cohérente, ce qu'on appelle un paradigme. Et en fait, le jeu de la science, c'est un jeu circulaire, une roue qui met en cause systématiquement le paradigme du moment en cours, de façon à créer de nouveaux éléments qui permettront de générer un nouveau paradigme. Et on le voit avec, on prendra peut-être l'exemple tout à l'heure du darwinisme et de l'époque actuelle qui remet en cause les théories de Darwin. Peut-être qu'un jour, la mécanique quantique ou la théorie de la relativité sera remplacée par un nouveau paradigme. Ce qui ne veut pas dire que le précédent était totalement erroné, c'est que le suivant vient compléter, préciser et généraliser encore plus avant celui d'avant. En disant cela, on entend que l'homme fait partie de la nature et que son comportement et son activité, qu'elle soit individuelle ou collective, obéissent également à des lois. Et cependant, il est nécessaire de faire une distinction, et c'est là où je voulais en venir, entre sciences de la nature et sciences humaines. La recherche scientifique couvre l'ensemble des sciences. Je m'aperçois que de toute la liste que j'ai là, aucun n'a évoqué une science humaine ou une science sociale. Je n'ai pas la sociologie, je n'ai que des sciences non humaines. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inhumaines, hein. Ce ne sont que des sciences de la nature. Donc qu'il s'agisse de leur définition, de leur mode d'élaboration, de leur statut social, de leur rapport avec l'idéologie dominante, elles présentent des différences considérables. Donc bien distinguer les sciences de la nature, dont vous m'avez parlé essentiellement, et les sciences dites humaines. Alors c'est vrai que vous êtes ici, première S, terminale S, préparation scientifique, il n'y a pas de, entre guillemets, de littéraire parmi vous. Peut-être que parmi vos collègues littéraires, il y aurait eu des évocations de sciences humaines ou sciences sociales. Alors encore quelques éléments qui me paraissent importants pour introduire ce débat, c'est ce que l'on doit aux différentes cultures, non seulement au passé, évidemment on doit tout au passé, hein, on n'est pas tombé de je ne sais où, nous venons d'un passé, nous nourrissons un présent, nous construisons un avenir, et nous faisons évidemment partie intégrante d'une chaîne. Mais en termes de culture, la recherche scientifique, la science, a des sources très différentes. La civilisation islamique, à l'époque c'était les mathématiques en particulier. Et là vous avez un texte qui est repris par George Anawati et Rojdi Rached. Il disait, et vous avez en ma personne, alors ça c'est, vous allez le voir, c'est ainsi parlait le barbier dans Les Mille et Une Nuits. Je ne sais pas si vous avez lu Les Mille et Une Nuits. Qui n'a pas lu Les Mille et Une Nuits? Alors, dans les mille et une nuits, le barbier, l'auteur fait parler le barbier de la façon suivante. Et vous avez en ma personne le meilleur barbier de Bagdad, un médecin expérimenté, un chimiste très profond, un astrologue qui ne se trompe point, un grammairien achevé, un parfait rhétoricien, un logicien subtil, un mathématicien accompli dans la géométrie, dans l'arithmétique, dans l'astronomie et dans tous les raffinements de l'algèbre, un historien qui sait l'histoire de tous les royaumes de l'univers. Outre cela, modeste, je possède toutes les parties de la philosophie, j'ai dans ma mémoire toutes nos lois et toutes nos traditions, je suis poète, architecte, etc. Voilà. Ainsi parlait le barbier dans les mille et une nuits. Non seulement les mathématiques, à l'époque, occupent une place de choix, dans ce qu'on appelle l'encyclopédie du savoir populaire, mais l'algèbre y figure également de façon spécifique avec ses raffinements. Et en fait, dans ce texte, le barbier, donc de Bagdad, se fait ici l'écho de classification des sciences bien plus savantes, en particulier celle d'Al-Farabi au Xe siècle, d'Avicenne au XIe siècle, et parmi bien d'autres, qui, contrairement à d'autres classifications grecques et hellénistiques plus tard, accueille une nouvelle discipline qui était l'astronomie. Voilà. Donc vous avez ici une vue de ce que représentait le domaine de la science, des sciences, dans cette culture islamique, de cette civilisation islamique. Une autre source qui continue de nous nourrir aujourd'hui, alors ça c'est une petite insertion. Voilà les dessous de la géométrie euclidienne. Vous avez tous dû apprendre en mathématiques, quand vous étiez plus jeune, que une seule droite ne passe par deux points. Hein. Voilà une démonstration assez probante. Donc l'autre source, c'est l'Inde. L'histoire des sciences, au sens où nous l'entendons en Occident, a bénéficié d'apports spécifiques de l'Inde, au moins dans trois domaines, l'astronomie, les mathématiques et les sciences médicales. Il faut voir que, par les siècles passés, ce qu'on appelait la science, les sciences, c'était les mathématiques, et puis l'application des mathématiques, et en particulier comme application l'astronomie. Tout ce qui touchait à la santé, à la médecine, c'était pas vraiment de la science, hein. C'était des guérisseurs, etc. L'Inde a introduit cette notion, en particulier la médecine ayurvédique, cette notion d'approche scientifique de la médecine. Et donc, à travers la médecine plus tard, du développement de la biologie. Donc l'astronomie, les mathématiques et les sciences médicales. D'autres disciplines scientifiques comme la physique n'ont pas été cultivées en Inde, sinon de façon purement spéculative. Il y a bien des égards, la médecine, qui n'est pas sans parenté avec la médecine hippocratique fondée sur la théorie des humeurs, reste malgré tout pré-scientifique, mais elle a tout de même suscité une masse considérable d'observations et les méthodes de classification biologique qui sont encore très intéressantes. Voilà. Et alors, ce qui est précisé après, c'est qu'il y a eu bien sûr des échanges très forts entre l'Inde et l'Europe, entre la civilisation grecque, la civilisation indienne, et tout ça médié par la civilisation arabe. Ce que je veux vous dire à travers cela, c'est que ce que nous sommes aujourd'hui d'un point de vue scientifique, ce que nous connaissons aujourd'hui d'un point de vue scientifique, ça n'est pas généré par notre seul et unique Occident, c'est un terreau qui a été nourri par des cultures qui viennent de par le monde entier et depuis de nombreuses années et de façon séculaire. La Chine. La civilisation chinoise, pour la Chine comme pour d'autres civilisations, plus on remonte le temps, plus il devient difficile de préciser ce qu'on doit entendre exactement par science. C'est pourquoi la science chinoise, on parle souvent de science chinoise spécifique, peut se définir de plusieurs manières. Il peut s'agir de toute idée, découverte ou méthode chinoise qui joue encore un rôle dans la science actuelle. Il y en a beaucoup. Ce peut aussi être l'ensemble des traditions visant à interpréter ou à agir sur la nature, qui se sont développées dans le monde chinois. Voilà. On passe pour le reste, mais on ne pouvait pas évoquer l'influence des civilisations sur la nôtre aujourd'hui, sans parler de l'islam, de l'Inde et de la Chine. Alors un point qui est crucial, et pour ceux qui, finalement je l'espère, d'entre vous s'engageront dans la recherche scientifique, vous comprendrez très tôt, y compris pendant vos études, que la controverse scientifique est partie intégrante de votre métier et d'abord de votre apprentissage. Alors oui, je ne me tourne pas parce qu'on m'a dit qu'il ne faut pas tourner le dos à la caméra, donc j'essaye de manœuvrer sans tourner le dos. Les controverses ont toujours fait partie de l'avancée des sciences. Elles sont indispensables à la formation, comme je vous le disais, au développement et à l'évaluation des théories, des méthodes, de la constitution et de l'interprétation des données. Certains auteurs considèrent la science comme une succession ininterrompue de controverses qui perdurent et sont reformulées. Elles trouvent parfois divers modes de clôture. Qu'y a-t-il donc de nouveau aujourd'hui ? Certaines controverses scientifiques sont devenues publiques, greffées autour de technologies susceptibles de causer des dommages graves pour l'environnement, pour la société, voire pour les générations futures. Elles deviennent multiformes. Cette nécessité de prendre en compte divers aspects scientifiques, économiques, éthiques, politiques, etc., invite à la fois à imaginer des modes de compréhension des enjeux et à trouver des procédures d'accompagnement, voire de règlement de ces débats à entrées multiples. 1. La controverse est salutaire. 2. De toute façon, elle est incontournable. Et 3. Je dirais qu'elle est, d'un point de vue individuel, indispensable. La controverse est aussi, pour vous, le développement de votre esprit critique. On en parlera peut-être à la fin. Quels sont les paramètres, les caractéristiques qui feront que vous pourrez être plus enclin à vous orienter vers la recherche? Il y en a certains. La curiosité. Il faut être curieux pour faire de la recherche. Curieux dans tous les sens du terme. Mais il faut aussi et surtout avoir un esprit critique. Critique sur ce que vous lisez, critique sur ce qu'on vous apprend, mais critique sur ce que vous observez vous-même dans vos propres expérimentations, et également critique sur le travail des autres, d'où la controverse. C'est cette notion d'esprit critique qui sera le fondement, le nutriment principal d'une bonne recherche. Si vous êtes formaté à accepter ce qu'on vous dit, et en particulier ce que je suis en train de vous dire, si vous n'avez pas un regard critique sur ce que je suis en train de vous dire, si vous acceptez des théorèmes, ou en tout cas des conclusions, ou des théories, même si elles ne vous paraissent pas complètement adaptées, vous ne serez pas dans une démarche de recherche. Pour être dans la recherche, il faut développer cet esprit critique. Encore une fois, ce n'est pas seulement une critique de l'autre, c'est parfois une critique sur ce que l'on est en train de faire soi-même. Un bon chercheur, c'est quelqu'un qui ne prend pas pour argent comptant ses observations, surtout lorsque ses observations vont dans le sens de son hypothèse. Alors la controverse, elle est très connue, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup dans l'histoire, des controverses. Une majeure, hein. Oser prétendre que la Terre tournait autour du Soleil, et de cette façon s'opposer à une théorie qui était une théorie à l'époque dominante et qui de surcroît était incarnée par la religion qui détenait le pouvoir, c'était quelque chose d'insupportable qui a emmené certains de ces scientifiques au bûcher. Là aussi, l'esprit critique sur certaines expérimentations. Bon, celle-là est assez intéressante, hein, vous voyez le... Lui, il a eu l'intelligence de mettre une clé, il voulait vérifier sa théorie. Il vérifie qu'effectivement, celui qui n'a pas mis sa clé, il se retrouve électrocuté. Voilà. C'est une expérimentation. Il a fait la preuve de son hypothèse. Maintenant, on peut discuter du caractère en particulier éthique de cette expérience, pour le moins. Alors, à ce stade, j'ai des petites histoires, des petites anecdotes scientifiques. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de les reprendre toutes. ce que vous pouvez, c'est les choisir. Vous arrivez à lire là d'où vous êtes ? Difficilement. Alors ça concerne différentes disciplines. Hein. On a en mathématiques, médecine, l'astronomie, la biologie. Voilà, c'est pour vous montrer comment dans l'histoire des choses se sont faites et qu'on ait un panorama des préoccupations au cours de l'histoire des sciences. Alors, je sais pas, on peut commencer par, pour ceux qui sont très très maths, mais vous êtes tous très très maths, que ce soit première S, terminale C, ou terminale S ou prépa, vous êtes tous matheux. Donc vous connaissez peut-être déjà la démonstration de la divine proportion. Oui ? Non ? Non. Alors, la divine proportion, vous avez la formule, hein, je ne sais pas si vous arrivez à la lire. Les anciens, et particulièrement les pythagoriciens, associent les mathématiques à l'idée d'harmonie. En supposant que l'on ait une grandeur quelconque, comment la partager de la façon la plus harmonieuse ? J'ai un bâton. Comment partager ce bâton en deux parties de façon la plus harmonieuse ? Donc on va la partager en deux parties, une grande et une plus petite. D'accord ? Pour l'instant c'est simple. Ils vont nommer la grandeur du départ, le tout, l'ensemble, et les deux petits morceaux, la partie et le reste. Donc on a le tout, le grand morceau c'est la partie, et le reste, le reste. Alors, disent-ils, l'harmonie serait établie si la partie est au tout, ce que le reste est à la partie. Si la proportion entre le tout et la partie est la même que la proportion entre la partie et le reste. D'accord ? Donc en fait, il faut avoir la même proportion entre le tout et la grande partie qu'entre la grande partie et la petite. C'est clair ? Est-ce que l'énoncé est clair pour tout le monde ? Alors si vous êtes, puisque vous êtes tous matheux, je vous laisse résoudre l'équation. Les prépas en 2 minutes, les terminales 3 et les premières 4. C'est parti. Ouais. Alors, si vous lisez les éléments d'Euclide, vous aurez la réponse à cette question dans le livre 1, proposition 30. Et c'est bien plus tard qu'il y a une interprétation algébrique qui sera donnée de cette question, qui est une question intéressante malgré tout. Quelle est la proportion, quel est le découpage entre un morceau qui fera que le tout est dans la même proportion que la grande partie et la grande partie dans la même proportion que la petite ? Non ? C'est pas intéressant ? Bon, c'est une question qu'on se pose tous les jours non plus, mais donc on se la pose cet après-midi. Eh bien, si on dit que 1 est le tout, la totalité c'est 1, et que x c'est la partie, la grande partie, le grand morceau, donc du coup le reste c'est 1 moins x. Là-dessus on est d'accord. Eh bien, on doit avoir 1 sur x égale x sur 1 moins x. D'accord ? 1 sur x égale x sur 1 moins x. Ça va ? C'est ça la question posée. 1 sur x, le tout sur la grande partie, doit être égal à la grande partie sur le reste. 1 sur x égale à x sur 1 moins x. Ça va ? Et bien, il suffit de résoudre cette équation. Cette équation elle est équivalente, si elle va transformer, à x au carré plus x moins 1 égale 0. Vous savez faire une équation, delta, b2 moins 4ac, tout ça là, vous vous souvenez ? Racine, là, là. Et donc, la racine positive, c'est le nombre phi qui est égal à racine de 5 moins 1 sur 2. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Et les propriétés de ce dernier sont absolument remarquables, entre autres, les décimales de phi sont identiques aux décimales de 1 sur phi. Et vous verrez que les peintres, y compris Dali et d'autres, ou les sculpteurs de pratiquement toutes les époques, ont abondamment utilisé ce nombre d'or. Voilà. Donc si à un concours vous tombez sur le nombre d'or, vous saurez y répondre. Je parle aux futurs polytechniciens là. Donc voilà, ce genre de questions qui circulaient dans les esprits à l'époque de Pythagore, puis à l'époque d'Euclide, et que les gens essayaient de résoudre. C'était, en plus, ce qui était intéressant, c'est que il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, et donc les scientifiques échangeaient par courrier, et on retrouve des parchemins, des lettres, des écrits, parfois à travers toute l'Europe, donc des lettres qui mettaient des semaines à parvenir au destinataire, où les gens s'échangeaient, les scientifiques s'échangeaient se soumettaient des problèmes. Il y avait des échanges comme ça entre grands mathématiciens, Blaise Pascal qui échangeait avec d'autres en Allemagne, pour se provoquer sur des duels mathématiques. Alors si on prend le suivant par exemple, c'était un des jeux qui a duré très très longtemps, plusieurs siècles, que j'ai appelé carré, dupliqué, trisecté. C'est le problème de la quadrature du cercle. Les anciens s'amusaient à essayer de résoudre trois problèmes. Encore une fois, qui n'ont pas grand intérêt pour nous. Le nombre d'or, encore, on peut imaginer qu'il peut arriver à aboutir à certaines harmonies intéressantes. Là, les problèmes, vous allez voir, sont très théoriques. Le premier, c'est la quadrature du cercle. Ce qu'on appelle carrer le cercle. C'est-à-dire, c'est construire exactement, enfin un carré exactement de même surface qu'un cercle donné. Construisez un cercle, il faut construire un carré qui soit exactement de la même surface que le cercle. Donc, étant donné un certain rayon, quel est le côté du carré correspondant ayant la même surface? Allez-y. Ils ont mis du temps à trouver, hein. Le second, c'est la duplication du cube. Dupliquer un cube. C'est-à-dire, quelle est la taille du côté d'un cube qui donnera un cube d'un volume deux fois plus grand que celui du premier. Vous avez un cube avec une arête de 10 cm. Quelle est la taille de l'arête du cube dont le volume sera le double du premier? Tout ça se résout par l'algèbre assez simplement, hein. J'en vois qui commencent déjà à essayer de... Et le troisième, c'est la trisection de l'angle. Parce que couper un angle en deux, c'est assez facile. Avec un compas, on sait tous faire ça. Enfin, vous avez tous appris, d'accord? Mais trisecter un angle. Pas bisecter, mais trisecter un angle. Donc construire, toujours de façon exacte, un angle trois fois plus petit qu'un certain angle donné. Eh bien, tout au long de l'histoire, il y a plusieurs méthodes qui ont été proposées par des mathématiciens pour résoudre ces différents problèmes. Et on va attendre le 19e siècle pour démontrer que ces problèmes n'ont pas de solution si l'on n'emploie que la règle et le compas. Donc, seule l'algèbre permettait de résoudre ces problèmes. Parce qu'à l'époque, c'était surtout la règle et le compas qui servaient d'outils à la mathématique. C'est-à-dire que la mathématique était très géométrique, plus qu'algébrique. D'accord ? Voilà le type de sujet d'intérêt qu'avaient les anciens. Le mouvement est impensable. Est-ce que vous connaissez ce paradoxe qui fait qu'on ne peut jamais, en partant d'un point A, atteindre le point B? Oui. Et qu'en fait, on ne part jamais. Le paradoxe, c'est 500 ou 490 années avant Jésus-Christ. C'est Zénon de Élée qui avait mené ce raisonnement qui a abouti à un paradoxe, c'est-à-dire que pour aller d'un point A à un point B, il faut passer par la moitié de A à B. Mais pour aller du point A à la moitié de la distance, il faut passer par la première moitié de la distance, et ainsi de suite. Et si vous menez le raisonnement jusqu'au bout, ben finalement vous n'allez jamais partir. D'accord. Alors vous pouvez prendre le paradoxe dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en partant d'un point A à un point B, vous passerez la moitié, vous passerez l'autre moitié, vous passerez encore la moitié de la moitié, mais vous finirez par ne jamais arriver, puisqu'il faudra toujours passer par la moitié de la moitié de la moitié. Alors, les choses intéressantes, c'est le principe d'Archimède que vous connaissez tous. Ouais. Principe d'Archimède. C'est... On est à l'époque du roi Hiéron de Syracuse. Et ce roi, Hiéron, commande une couronne d'or à un orfèvre local de Syracuse. Il reçoit sa couronne. Et on ne sait pas trop pourquoi, l'histoire ne le dit pas, mais l'orfèvre, monsieur qui a fait cette couronne d'or, a été soupçonné de fraude. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une couronne en or massif, il a essayé de vendre au roi une couronne supposée en or massif, mais dans laquelle il avait un peu triché, il a mis un peu d'or, mais d'autres métaux beaucoup moins précieux dedans. En sachant que l'or, a priori, est le métal le plus dense par rapport aux métaux dégradés qui étaient moins denses. Vous connaissez ça au départ. D'accord ? Et donc, quand le roi s'est douté ou a appris, il y avait des rumeurs que peut-être l'orfèvre était en train de tromper, il appelle Archimède, qui était à l'époque déjà réputé, et qui vient comme expert. Alors, il y a plusieurs versions. La première version, vous allez voir, elle dit que. Elle est très simple, mais elle est probablement peu réaliste et fausse. On dit que Archimède aurait immergé une masse d'or égale à la masse de la couronne. D'accord ? Donc l'eau a débordé. Il a retiré l'or. Et il a à ce moment-là immergé la couronne de l'orfèvre. Si cette couronne avait été de même densité que l'or, elle aurait occupé le même volume. Et donc il n'y aurait pas eu de débordement d'eau supplémentaire. Hélas, pour l'orfèvre, le volume était supérieur et donc la densité était moindre. Il y avait donc ou de l'argent ou un métal d'une moins bonne qualité que de l'or qui était en alliage avec cet or. Bon, c'est peu probable pour différentes raisons. Et la bonne version que les historiens retiennent, c'est que Archimède aurait pris une balance, une Roberval, pas de Roberval à l'époque, mais l'équivalent d'une Roberval, une balance donc précise, qu'il a équilibrée d'un côté la couronne avec de l'autre côté une quantité d'or et qu'il a pris le tout, la balance avec sur un plateau la couronne et de l'autre côté la quantité d'or qui équilibrait le poids de la couronne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Et à ce moment-là, vous êtes les dignes héritiers d'Archimède lui-même, sans le savoir. Qu'auriez-vous fait? Bah déjà, on vous aide puisque la méthode de la balance est déjà avancée. Et comment démontrer? Vous êtes d'accord? Vous êtes sur une balance, elle est équilibrée. D'un côté, vous avez la couronne préparée par l'orfèvre. De l'autre côté, une quantité d'or équivalente qui équilibre la couronne. Et qu'est-ce qu'on va faire pour démontrer, pour vérifier si effectivement la couronne est en or massif ou pas? Eh bien, vous aurez la réponse la semaine prochaine. On revient la semaine prochaine? On revient la semaine prochaine. Eh bien, il a pris le tout, la couronne, enfin la balance avec la couronne, les deux plateaux, il a pris le tout, il l'a mis dans une bassine d'eau. Il a immergé l'ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Si la couronne est en or massif, les deux plateaux vont effectivement rester équilibrés sous l'eau. Dans le cas contraire, ça va monter du côté du métal le moins dense. C'est effectivement ce qui s'est passé. La poussée est supérieure du côté le plus léger et l'équilibre est rompu. C'est ce qui s'est passé. Et donc l'orfèvre a été démasqué grâce à cette méthode d'Archimède. Vous voyez la subtilité? Donc comment utiliser un principe qui est aujourd'hui considéré comme universel dans une application purement pratique et somme toute assez simple. D'accord ? Alors une que j'ai trouvée très amusante, c'est d'ailleurs c'est sur la psychologie du chercheur. Et parce que souvent on se fait l'idée du chercheur sombre, inquiet, éventuellement sinistre, sérieux quoi. Et là, c'est à propos de Démocrite. On raconte que les habitants d'Abdère, où vivait le philosophe Démocrite, qu'il était philosophe, il n'était pas scientifique, mais philosophe. Donc c'est vrai, l'idée du philosophe aussi, c'est quelqu'un d'austère. Ils ont fait appel à Hippocrate, qui était médecin, car il s'inquiétait de la santé mentale de ce philosophe Démocrite. Et pourquoi il s'en inquiétait? Parce que ce philosophe ne cessait de rire. Et trop souvent pour ne pas être considéré comme fou. Il riait à tout bout de champ. Donc Hippocrate est venu, il l'a examiné, et il aurait conclu que non seulement son rire n'était pas un rire de folie, un symptôme de folie, mais qu'au contraire c'était le témoignage de la sagesse du philosophe. Donc c'est la vision du médecin qui retourne la situation et qui dit, ben non, il rit pas parce qu'il est fou, il rit parce qu'il est sage, et que sa sagesse l'amène à ce comportement. On va garder les autres histoires un peu pour plus tard, si vous voulez bien. Il y en a comme ça de nombreuses. Et là, je voudrais vous donner quelques exemples de chercheurs, rapidement, parce qu'après, je voudrais qu'on passe aux questions, si vous avez pu compiler les différentes questions. Ouais. Alors, quelques exemples de grandes recherches qui vont vous illustrer aussi ce qu'est la recherche. Ici, il s'agit de Alphonse Lavran, médecin biologiste, médecin militaire, fin du 19e siècle, et qui a eu le prix Nobel de physiologie, je crois, pour avoir découvert l'agent du paludisme, de la malaria. Voilà, donc ça, ça illustre très bien quelque chose de très intéressant, c'est que on n'est jamais seul dans une découverte. Il fait partie là aussi d'une lignée et d'un raisonnement de l'époque. Les gens essaient de comprendre pourquoi ces fièvres, à quoi ces fièvres étaient-elles dues. Faut comprendre, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'était avant que la biologie s'installe, la science biologique, on était dans la théorie des humeurs. Les maladies étaient liées à des humeurs. Donc des choses qui relevaient un petit peu, qui n'étaient pas scientifiques. D'accord ? Et on savait qu'il y avait des fièvres, en particulier autour des marais, les zones humides, marécageuses, et on considérait que c'était cet air malsain qui générait ces fièvres. Effectivement, c'est surtout les habitants autour des marais qui souffraient de ces fameuses fièvres. Donc il a fallu le travail de plusieurs chercheurs, et qui bien sûr s'est à un moment donné révélé par un chercheur qui a révélé et trouvé la cause, pour arriver à ce raisonnement et à cette démonstration qu'en fait il s'agissait d'un parasite, du globule rouge dans le sang, qui était à l'origine de ces fièvres, alors qu'à l'époque on pensait que c'était encore une fois l'air ambiant qui était désagréable. Mais encore plus fort, c'est qu'à cette époque-là, il a fallu aussi pouvoir démontrer comment était transmis ce parasite. Et j'y pense assez souvent parce que c'est mon domaine de travail de prédilection, le paludisme, et je me dis que si j'avais été à leur place à l'époque, je pense que j'aurais jamais été capable, comme eux, de démontrer comment le paludisme était transmis. On savait que les fièvres survenaient autour de ces marigots, de ces marais. Comment imaginer la transmission, comment on était contaminé par ce parasite, et d'abord découvrir qu'il s'agissait d'un parasite du sang. Donc il a fallu que des raisonnements aboutissent au fait qu'un moustique pouvait, en vous piquant, transmettre un parasite qui ensuite se retrouvait dans le globule rouge, dans le sang. Et si, encore une fois, si on se replace, même aujourd'hui, qu'on ne le sait pas, qu'on n'a pas l'information, qu'on n'a pas cette connaissance, on se replace aujourd'hui devant cette situation, on serait bien en peine de redémontrer qu'effectivement, il s'agit d'une transmission par un vecteur, en l'occurrence, un moustique, l'anophèle. Voilà. Plus tard, c'est Sir Ronald Ross, un Anglais, qui a, lui, fait la démonstration de la transmission par le moustique qu'avait déjà évoqué Alphonse Lavran à l'époque. Et lui, Alphonse Lavran, il a observé au microscope, il était à l'époque à Constantine, il a observé au microscope le mouvement du globule rouge qui contenait ce parasite. Alors, un autre chercheur qui m'est cher, parce que j'en parlais à Cécile dans le train ce matin, j'ai eu la grande chance, le privilège de le rencontrer, j'avais votre âge, j'étais fin de collège, de lycée, et j'ai pu rencontrer et bénéficier de certaines des conférences de ce grand monsieur qui est Henri Laborie. Henri Laborie, c'est quelqu'un qui est d'abord un chirurgien, puis biologiste, enfin, il a multiples facettes, qui a eu beaucoup de prix dans sa vie, jamais le prix Nobel, et vous allez voir pourquoi, et qui a développé toute la théorie du comportementalisme. Et voilà, c'est quelqu'un qui est un de ces grands personnages qui avait cette capacité d'avoir fait de la recherche en chirurgie. C'est lui qui a initié le refroidissement du corps pour les interventions, pour certaines interventions. Ce qu'on fait aujourd'hui, quand on fait une greffe de cœur ou une greffe de cœur-poumon, on refroidit l'individu, hein, on descend la température très bas. Il a découvert un certain nombre de choses. Il est à l'origine de la découverte des premiers neuroleptiques. Et encore une fois, il a développé cette théorie du comportementalisme. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Mon oncle d'Amérique » d'Alain René. Je ne sais pas s'il existe en vidéo, s'il est possible de le voir. Je vous le recommande. C'est un film qui, dont effectivement le conseiller scientifique est Henri Laborie. Et c'est une fiction qui fait le parallèle en permanence entre le comportement humain et, en parallèle, on voit très souvent des rats de laboratoire et on essaye de voir comment les similitudes comportementales. Alors, ça, c'est les quelques livres que moi à l'époque j'avais lus, mais il en a écrit de très nombreux, L'éloge de la fuite, La nouvelle grille et tant d'autres. Alors, pourquoi pour la petite histoire ? Pour lui, c'était pas une petite histoire, je pense que c'était une grande tristesse, mais pour la petite histoire malgré tout, au niveau de ce qu'il a découvert, c'est pas bien grave. C'est que, évidemment, comme tout chercheur, et en particulier chercheur qui apporte des théories un peu nouvelles, voire iconoclaste, il ne se fait pas que des amis, c'est encore vrai aujourd'hui, évidemment. Le doyen de la faculté de médecine de l'époque, et on ne citera pas son nom, apprenant qu'il allait probablement être nominé pour le prix Nobel de médecine, a fait le voyage jusqu'à Stockholm pour convaincre le jury du Nobel de ne pas donner le Nobel à M. Henri Laborie, qui donc ne l'a pas eu. Vous voyez les querelles à ce niveau de... Voilà. Et cette notion de jalousie existe dans la recherche et dans la science, en France comme ailleurs, hein. C'est quelque chose d'assez assez fréquent, et là c'est assez manifeste dans ce cas présent. Alors, l'histoire de la découverte du sida et du VIH. Merci. Alors, je vous en parle aussi parce que ce sont des gens avec qui j'ai travaillé, que j'ai connu de très près. Donc, comment ça s'est passé, la découverte du VIH et du sida? Si on reprend l'histoire très très en amont, il y avait une maladie pneumologique due à... C'est ni un champignon ni une bactérie, on appelle ça le pneumocystis, la pneumocystose, qui se traite avec un seul médicament, qui est la pentamidine. Bon. Et cette pneumocystose, fin des années 60, début des années 70, était très rare. Et pour obtenir de la pentamidine, en tout cas aux États-Unis, il fallait faire une demande spécifique au Centers for Disease Control à Atlanta, qui gérait ce stock de pentamidine. Et pour vous donner une indication, de 67 à 79, donc sur 12-13 ans, il n'y a eu que deux demandes de pentamidine pour l'État de New York. Et généralement, il s'agissait de patients qui étaient immunodéprimés en cas de cancer, ou qui avaient des chimiothérapies immunosuppressives pour des greffes de reins en particulier, des greffes d'organes. Et puis, 1980, ils se sont aperçus qu'en un an, il y a eu 9 demandes de pentamidine en un an, alors qu'il y en avait eu 2 en 12 ans. Donc cette espèce de demande soudaine a quand même mis la puce à l'oreille. D'où l'intérêt de ce type de surveillance. Ça fait partie des systèmes dont on dispose aujourd'hui de surveiller la consommation de certains médicaments qui peuvent parfois être l'indicateur d'un phénomène épidémique. Donc c'est comme ça que c'est un des premiers éléments d'alerte sur ce phénomène. Et puis après, vous le savez, il y a eu des cas sur la côte ouest, Los Angeles, San Francisco. Et puis, donc on arrive sur un syndrome qui touche essentiellement ou les hémophiles ou les homosexuels. Également en Haïti, vous savez, la règle des 4 H. Et puis, sur des infectiologues qui essayent de rattacher le syndrome qu'ils voient à ce qu'ils connaissent. Quand on a un patient avec une pathologie, on essaye de trouver parmi les différentes maladies que l'on connaît déjà. Et donc, Willy Rosenbaum, ici en haut à gauche, a fait la même chose sur un des patients. À l'époque, il était à l'hôpital Bichat, on était en 82, je crois, et il essaye de rapprocher le syndrome à ce qu'il connaît en termes de bactéries, de virus. Bon. Et puis, il en parle à sa collègue, Françoise Brun-Vézinet, qui était infectiologue avec lui. Il va à l'hôpital Pasteur, c'est un institut à l'hôpital Pasteur, pour faire une conférence, et puis il en parle avec les gens là-bas. Bon, personne semble très très motivé. Et Françoise Brun-Vézinet avait, elle, suivi un cours. Donc vous voyez un petit peu la petite histoire, parfois ça tient à quelque chose, à des détails. Elle avait suivi le cours de virologie, de rétrovirologie à l'Institut Pasteur. Et donc, elle dit à Willy Rosenbaum, pourquoi ne pas demander à l'équipe? Donc l'équipe, c'était Jean-Claude Sherman, et dont les assistants, enfin les gens qui travaillaient avec Jean-Claude Sherman, qui avaient cette unité d'oncologie virale, c'est-à-dire le lien entre les virus et les rétrovirus et les cancers. Donc dans cette unité d'oncologie virale que dirigeait Sherman, il y avait Françoise Barré-Sinoussi aussi, jeune chercheuse, et Luc Montagnier. Et c'est comme ça que le lien s'est fait. Et puis un beau jour, Willy Rosenbaum a changé d'hôpital, il est passé de l'hôpital Bichat à l'hôpital Pierre-Salpêtrière, dans le service dans lequel je travaille, et il a eu l'intuition, et c'est là aussi, vous voyez, dans l'histoire, chacun apporte sa pierre, que si on devait trouver l'agent infectieux, et probablement l'agent viral, il devait s'agir d'un virus, on devait le trouver dans les ganglions. Et donc il tombe sur un patient qui présente ses adénopathies, un ganglion anormal, il fait prélever ce ganglion, il l'apporte lui-même au laboratoire d'oncologie virale de l'Institut Pasteur, donc à l'équipe de Jean-Claude Sherman, où travaillaient Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi aussi. Luc Montagnier prend le ganglion, met en culture les cellules, il récupère le surnageant des cultures, et à chaque fois, tous les jours, il reprend le surnageant, il l'amène à Jean-Claude Sherman, à Françoise Barré-Sinoussi, en disant, recherche voir s'il n'y a pas de la reverse transcriptase, donc un élément qui permet de vérifier qu'il y a un rétrovirus. Et effectivement, au bout d'un moment, ils s'aperçoivent qu'il y avait une activité rétrovirale à l'intérieur, mais qui s'estompe très vite, puisqu'en fait, ce virus finit par tuer les cellules dans lesquelles il vit. Donc ils ont eu l'idée très vite d'aller chercher du sang de donneur de l'hôpital Pasteur, de prendre des globules blancs et de remettre dans la culture de façon à réalimenter et réactiver le virus. Et puis ensuite, ils ont pris les cellules, ils les ont données à un autre de leurs collègues qui faisait de la microscopie électronique, qui, en cherchant de façon acharnée, a fini par trouver, visualiser au microscope électronique ce fameux virus, cette fameuse image qui a circulé dans le monde entier de ce virus qui rentre dans un lymphocyte CD4. Voilà l'histoire. Donc Jean-Claude Sherman ici, Luc Montagnier, Françoise Barré-Sinoussi aussi. Willy Rosenbaum, quand il a prélevé son patient, il l'a prélevé à l'hôpital Pierre-Salpêtrière, dans le service du professeur Marc Gentilinier qui est ici. Donc, voilà toute l'histoire. Et au final, comme vous le savez, il y a 2008, le prix Nobel de médecine a été accordé à Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier. Alors, avant d'aborder les métiers de la recherche, on va regarder un peu les... Je vais vous donner la parole. Ça, ce sont les questions ?
Absolument.
Alors, l'organisation du travail du chercheur, quotidien, conditions de travail, vie dans le laboratoire. Première question. Démarche de la recherche scientifique. Vaste question. Quel salaire ? Ça, c'est précis. Quelles études ? Qu'est-ce qui fait un bon chercheur ? Motivation, vocation. Les grands thèmes des recherches actuelles, on va en parler si on a le temps. Les possibilités de reconversion, très intéressant. Débouchés et postes. Personnellement, qu'avez-vous trouvé en tant que chercheur ? D'accord. Et il reste... Ah, ça c'est un challenge. Il reste 5 minutes. Aïe, aïe, c'est vrai ? Mon Dieu, ça passe vite. Qui veut se lancer parmi toutes ces questions ? Qui veut formuler une question qui lui brûle les lèvres parmi toutes celles-là ? Qui est le plus motivé ? Vite, 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 il reste 4 minutes et demie. Non ? Alors, on prend la première. L'organisation du travail du chercheur, quotidien, conditions de travail, vie dans le laboratoire. Impossible de répondre à cette question, tant les sciences sont variées. Si vous faites de la biomarine, vous allez travailler au fond de l'eau, avec des scaphandres, des sous-marins. Si vous faites de l'astrophysique, vous allez faire des mathématiques à partir de données qui vont vous arriver de l'espace. Si vous faites de la biologie, vous allez travailler essentiellement dans un laboratoire, sur des cellules, sur des animaux, éventuellement sur l'animal. Les disciplines, si vous faites de l'archéologie, si vous faites... Les disciplines sont tellement variées que... Et j'allais dire, c'est... Ça vous paraît peut-être un peu paradoxal, mais c'est peut-être votre choix de vie tel que vous l'envisagez qui peut peut-être déterminer la discipline qui vous intéressera. C'est pas pareil d'aller observer les gorilles dans les montagnes de l'Ouganda que de faire de la recherche sur les nanotechnologies ou les semi-conducteurs. Ce ne sera pas le même mode de vie, ça c'est clair. Donc tout dépend ce que vous aimez, ce que vous souhaitez avoir comme vie au quotidien, et c'est ce souhait-là, ce désir-là qui va peut-être déterminer le type de recherche ou le type de science que vous, sur lesquelles vous voulez travailler. C'est une réponse qui vous déçoit ? Vous auriez voulu que je vous donne un schéma. Démarche de la recherche scientifique. Alors ça, par contre, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'au contraire de ce que je viens de vous dire pour la présente question, là, je pense au contraire qu'il y a une démarche commune à la recherche scientifique. La démarche scientifique, c'est d'abord et avant tout la rigueur associée à ce qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, la capacité de remise en cause. Ne jamais accepter pour argent comptant. Ceux qui vont faire progresser les théories de l'évolution, ce seront ceux qui accepteront de remettre en cause des théories, même si elles sont admises par l'ensemble, y compris leur supérieur. Il faut oser remettre en cause des choses et avec rigueur. Il faut observer et déduire en restant objectif. Ne jamais introduire de subjectif ou d'affect dans l'observation et l'analyse. Ça, c'est une règle pour toutes les sciences, quelles que soient les disciplines. Quel salaire ? Vous ne ferez jamais fortune en faisant de la recherche. Si vous voulez faire de l'argent, vous faites du business, de la contrebande, il y a beaucoup de métiers où vous pouvez faire, vous pouvez être trader, remarquez, il y en a qui ça rapporte beaucoup, parfois des années de prison, mais généralement beaucoup d'argent. Mais la recherche, c'est pas un métier qui vous enrichira financièrement, par contre qui pourra vous enrichir à bien d'autres points de vue, beaucoup. Quelles études ? LMD, licence, master, PhD, doctorat. Licence 3 ans, master 2 ans, PhD minimum 3 ans, suivi de postdoc. Donc bac plus 8 jusqu'à bac plus 10 si on fait 2 ans de postdoc. Après, il faut passer les concours d'entrée à l'INSERM, au CNRS, à l'INRA, au CIRAD, à l'IRD, voilà. Et devenir chargé de recherche premier niveau, chargé de recherche deuxième niveau, puis plus tard, vous pouvez devenir directeur de recherche. Voilà. Ce sont nos longues études, en sachant que dès le Master 2, en tout cas, parfois Master 1, mais dès le Master 2, donc au cours de votre Bac plus 5, vous commencez déjà à être dans une équipe de recherche et vous conduisez des recherches. Vous êtes déjà dans une démarche de chercheur. Qu'est-ce qui fait un bon chercheur ? Si on le savait, hein. Encore une fois, je pense que pour être motivé par la recherche, ce que je vous disais d'entrée de jeu, curiosité, être curieux surtout, avoir un esprit objectif, accepter les données, même celles qui ne vous conviennent pas, et encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, esprit critique. D'accord ? Savoir remettre en cause un certain nombre de choses. Les grands thèmes de la recherche actuelle, on va les passer vite en quelques secondes. Possibilité de reconversion, j'allais dire, c'est plutôt de passage du public vers le privé, parfois du privé vers le public. Malheureusement, les reconversions, elles sont toujours, j'allais dire, sur des hiérarchies descendantes. C'est-à-dire que malheureusement, on a des étudiants qui font un bon PhD, qui ne trouvent pas de postdoc et qui se retrouvent représentants pour un catalogue de laboratoire. C'est une reconversion, certes, mais pas sûr que ce soit ce qui était souhaité au départ, quand même. D'accord. Il faut être pugnace pour être dans la recherche. Et après, encore une fois, vous pouvez naviguer. Vous avez la chance de faire partie d'une génération plus européenne. Vous avez les programmes Erasmus. N'hésitez surtout pas dans votre curriculum, dans votre cursus de formation, si vous choisissez la recherche, à jouer la carte de la mobilité. Allez travailler dans différents laboratoires. Évitez d'avoir une formation monolithique dans une seule équipe. D'accord ? Donc, non seulement en France, mais essayez de vous expatrier le plus possible, déjà en Europe, parce qu'il y a des facilités, voire ailleurs. Déboucher, on en a un petit peu parlé, c'est pas mirifique, mais on ne sait jamais. La politique de la recherche peut changer, peut-être que les choses peuvent s'améliorer. Personnellement, qu'avez-vous trouvé en tant que chercheur ? Vous savez, la vie d'un chercheur, c'est de chercher, rarement de trouver. Des Luc Montagnier, il y en a un de temps en temps. Luc Montagnier travaillait sur le rétrovirus du chat. Jamais il aurait imaginé qu'un jour quelqu'un allait lui apporter un ganglion à partir duquel on aurait trouvé le VIH. On trouve le fruit de notre travail. Il y a un seul critère en science, c'est la publication scientifique, validée par nos pairs, par nos contemporains dans la même discipline, qui permet de publier dans des revues scientifiques. Et c'est la publication scientifique, avec des graduations selon les revues, qui établit la production du chercheur. Voilà. Donc, la question que vous pouvez poser à un chercheur, c'est quelles sont vos publications scientifiques ? Et là, à travers les publications scientifiques, vous verrez ce qu'il a trouvé, ce qu'il a démontré, ce à quoi il a contribué, les contributions qu'il a apportées dans sa discipline. Alors, les sujets d'importance aujourd'hui, on n'a plus du tout le temps, on les passe juste pour vous les voyez. Les dix derniers... Non, je pense qu'on ne va pas avoir le temps. Ça, c'était donc... on va terminer là-dessus. J'essaie de vous évoquer un peu les différents métiers de la recherche, en sachant que pour qu'une équipe de recherche fonctionne, il faut qu'il y ait des techniciens. Et le technicien, c'est la clé de voûte, c'est la garantie de fonctionnement d'un laboratoire, d'une équipe. Il faut des ingénieurs qui très souvent apportent des solutions sur des problèmes qui paraissaient insolubles au départ. Il faut des chercheurs. Alors là, selon l'âge, plus on est jeune, plus on a des idées, et plus on est âgé, plus on cherche de l'argent. D'accord ? En sachant que le pic de productivité scientifique en termes d'idées du chercheur, c'est 25 à 35 ans. Donc moi, je suis carrément sur le déclin, vous voyez. Donc c'est jeune que les idées viennent. Les très bonnes idées, les idées géniales, elles viennent jeunes. D'accord ? Il ne faut pas croire que c'est avec l'âge que les bonnes idées vont venir. Avec l'âge, vous trouverez de meilleurs moyens de trouver des fonds pour vos recherches. Et puis, il y a le travail de vulgarisateur. On n'a pas le temps d'en parler, mais je voulais vous évoquer Yves Coppens, Hubert Reeves, Georges Charpak, des grands. Et il faut être un grand parmi les grands pour avoir cette capacité de vulgarisation. Et puis il y a le travail de journaliste scientifique qui est aussi un lien entre le grand public et la science. Voilà, je m'excuse d'avoir débordé. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si on a atteint les objectifs. En tout cas, j'espère que vous aurez passé malgré tout un bon moment.
Merci beaucoup.